France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir, désinformé en deux parties, en deux temps ce soir. Tout d'abord la restitution du grand débat national par Édouard Philippe. Allons-nous vers un Big Bang fiscal ? Et dans la deuxième demi-heure, une édition spéciale européenne à presque 50 jours du vote sur fond de Brexit. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Céline Brac.
Bonsoir.
Co-fondatrice et directrice générale d'Odoxa Sondage. À mes côtés également, bonsoir Sarah Durieux.
Bonsoir.
Directrice de Change.org France. Vous avez dressé en exclusivité, hein, pour les informer, le top 5 des revendications issues du grand débat à travers une centaine de pétitions lancées sur votre plateforme. À mes côtés également, notre partenaire du lundi, François Dorcival. Bonsoir à vous, François.
Bonsoir Jean-François.
Et éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Et le deuxième partenaire, Patrice Moyon. Bonsoir Patrice.
Bonsoir Jean-François.
Chroniqueur économique et social et éditorialiste à Ouest France. Nous serons rejoints dans la deuxième partie par Isabelle Jégouzeau, la chef de la représentation en France de la Commission européenne, qui nous expliquera ce que sont les décodeurs de l'Europe, et par Paolo Lévy, journaliste correspondant de La Stampa. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la TV sur le canal 27 de la TNT. Le Grand Palais ce matin, tout près de ces Champs-Élysées qui resteront le haut lieu de la mobilisation des Gilets jaunes. Discours très attendu, la restitution donc du grand débat national par le Premier ministre avant les annonces du chef de l'État qui devrait intervenir à partir de la mi-avril. Cela reste mystérieux. Édouard Philippe a tenté la synthèse d'1 900 000 contributions, 10 000 débats locaux, 16 000 cahiers de doléances. C'est le livre des records et à la une réforme de la fiscalité.
Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts.
Céline Brac, c'est un sujet qui correspond à ce que vous avez sondé pour France Info et Le Figaro semaine après semaine.
Oui, complètement. C'est-à-dire que quand on rentre dans le détail, on voit qu'il y a pas mal de différences entre la restitution de ce grand débat et ce que l'on peut mesurer auprès d'échantillons représentatifs de la population en sondage. Mais une chose est très claire sur cette préoccupation fiscale, cette obsession fiscale, c'est très clairement ce qu'on relève dans nos sondages. C'est-à-dire baisser les impôts, les baisser fortement, c'est une demande très forte des Français et une demande qui n'a cessé d'augmenter ces derniers mois, avec vraiment ce terme d'exaspération fiscale est vraiment sur toutes les lèvres, et ça fait partie des sujets non seulement sur lesquels les Français sont très favorables à ce que les impôts baissent, c'est une chose qui est très clairement établie, mais c'est aussi ce qui est dit en priorité, en spontané dans les sondages d'opinion, comme ça a pu être dit spontanément dans les différentes réunions qui ont eu lieu lors du grand débat.
François Dorcival, c'était pas sorcier quand même, non ? Découvrir que les Français veulent moins d'impôts.
Absolument, c'était pas très sorcier. Mais il n'y avait que les sondages qui le disaient. Maintenant, il y a tous ceux dont vous venez de parler qui l'ont dit. Les cahiers de doléances, ceux qui sont allés sur le site internet, ceux qui sont allés dans les réunions, etc. Et donc ça fait les vrais gens. Les vrais gens l'ont dit aussi.
Bref. Ce sont des vrais gens qu'on interroge dans les sondages, je précise.
Oui, mais on est obligé de dire que les responsables politiques, là je parle sérieusement, tiennent constamment compte des sondages, mais vis-à-vis de l'opinion, il fallait leur montrer qu'il y avait une participation massive pour dire la même chose.
La question, c'est
quelle leçon on va en tirer ? Parce que baisser les impôts, on a entendu la semaine dernière Bruno Le Maire, Gérard Darmanin dire tous les deux sur des registres à peine différents, oui, il faut baisser les impôts, tout le monde est d'accord, on va voir.
Patrice Moyon, justement, le changement est si radical, je cite Édouard Philippe dans le texte, que toute frilosité serait impardonnable, il met la barre très haut quand même.
Il met la barre très haut, mais cette exaspération fiscale, cette demande de moins d'impôts, à qui s'adresse-t-elle ? Aux gilets jaunes qui ne paient déjà pas d'impôts pour la plupart ? Puisqu'ils ne sont pas imposés, aux classes moyennes et moyennes supérieures, mais qui n'étaient pas dans la rue. Donc, il y a un certain nombre d'ambiguïtés quand même dans cette promesse.
Oui, Sarah Durieux, justement, alors je rebondis sur ce que dit Patrice Moyon, il vient de prononcer « gilets jaunes », ce que n'a pas dit le Premier ministre dans son discours aujourd'hui.
Juste par allusion.
Oui, c'est par allusion, absolument. Oui. Vous diriez, vous, Sarah, discours à la hauteur des attentes de ceux qui ont manifesté, qui manifestent depuis 3 mois ?
Ce qui m'a marqué dans ce discours, c'est la constante opposition qu'Édouard Philippe a fait entre certains groupes. Donc ceux qui ont participé au grand débat national de manière pacifique dans les réunions et ceux qui étaient dans la rue. Ceux qui ont facilité la tenue du débat public et ceux qui ne l'ont pas facilité, sous-entendu la Commission nationale du débat public. Voilà, cette constante opposition, j'ai trouvé presque inquiétante parce qu'on est dans un moment où on doit rassembler les gens, on ne doit pas créer des oppositions, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Cela dit, ce qui était plutôt positif, c'était la reconnaissance de l'existence de ces mouvements et de ces opinions, parce qu'on a eu quand même un grand moment où le gouvernement a fait en sorte de dire finalement, cette colère, elle n'existe qu'au sein d'une petite partie de la population, et là, elle est reconnue.
Céline Braque, vous qui avez une boule de cristal,
vous
sentez que ça y est, c'est prêt, le gouvernement, le président, c'est lui qui décide, et le Premier ministre accessoirement, c'est fait, tout est quasiment ficelé, on va savoir très vite ce qui va se passer.
Alors malheureusement non, je n'ai pas de boule de cristal, je dois l'avouer. Ce qui est clair, c'est que compte tenu de cette introduction en fanfare de la part d'Édouard Philippe sur les impôts, il y a vraiment intérêt à ce que les annonces en termes de fiscalité soient extrêmement fortes à partir de la semaine prochaine, si j'ai bien compris, de la part d'Emmanuel Macron. Parce que, si vous voulez, les Français n'attendaient pas grand-chose de cette restitution. C'est-à-dire qu'ils se sont montrés assez enthousiastes sur le principe, sur le principe de ce grand débat, mais ils n'avaient pas de grands espoirs. Maintenant, il peut y avoir un effet de levier, c'est-à-dire que si des annonces... Plusieurs annonces assez fortes sont faites en matière fiscale. Alors, les Français, spontanément, ils voudraient qu'on baisse la TVA, ils voudraient qu'on réindexe les retraites. Alors, c'est plus du pouvoir d'achat que de la fiscalité, d'ailleurs, qu'on réindexe les retraites sur l'inflation, etc. S'il y a quelques mesures fortes, eh bien, ça pourra finalement provoquer un certain contentement dans la population.
On va parler dans un instant du calendrier à suivre et surtout le top 5, votre top 5, Sarah Durieux sur change.org, des pétitions de ce grand débat national. Mais pour l'heure, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Gilles Dequisse.
Le parquet de Paris ouvre ce soir deux nouvelles enquêtes préliminaires dans l'affaire Benalla. Une pour des soupçons de faux témoignages devant la commission d'enquête du Sénat. Elle vise le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Patrick Strauda, Vincent Crase et Alexandre Benalla. Ce dernier, chargé de mission à l'Élysée, est aussi visé par une deuxième enquête. Il n'aurait pas rempli comme il se doit une déclaration à la Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique. Il ne s'agit pas de modifier l'âge de départ à la retraite, fixé à 62 ans, rappel sur France Info, Sibeth Ndiaye. Clarification après plusieurs propos ambigus de l'exécutif sur la réforme des retraites. Il faudra prendre en compte les nouvelles dépenses liées au financement de la dépendance, précise toutefois la porte-parole du gouvernement. Baisse d'impôts, proximité des services publics, démocratie directe et urgence climatique. Voilà les quatre axes retenus par le gouvernement à l'issue du grand débat national. Le Premier ministre Édouard Philippe a donc dévoilé ses conclusions tout à l'heure. Il est temps de passer à l'action comme on le demande depuis des mois, estime la porte-parole des Républicains, Laurence Saillet. 3 ans après avoir voté le Brexit, les Britanniques vont peut-être devoir voter aux élections européennes. Si tel est le cas, ce sera le 23 mai, date choisie aujourd'hui par Londres, car pour l'instant, la sortie de l'Union tarde à se faire. La Première ministre Theresa May demande à Bruxelles de lui accorder jusqu'au 30 juin maximum pour trouver un accord de sortie avec son Parlement. Après une belle victoire contre le Japon la semaine dernière, l'équipe de France continue sa préparation au Mondial de foot féminin cet été. Elle va jouer contre le Danemark ce soir à 21h. Il restera 2 matchs tests ensuite avant cet été. L'entraîneur Corinne Diacre dévoilera sa liste des 23 dans la première quinzaine de mai.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Juste 2-3 considérations de calendrier, d'agenda. Donc, il y a l'Assemblée nationale demain, il y a le Sénat mercredi, il y a le chef de l'État à partir de la mi-avril. Pourquoi cette valse à 3 temps?
Non, mais attendez.
Attendez.
Oui.
Oui.
Non, parce que vous dites, à juste titre, l'Assemblée et le Sénat vont discuter cette semaine de la restitution.
Oui, absolument.
Pas des projets de loi.
Pas des projets de loi. Alors justement,
donc ça viendra après.
Pourquoi ce choix? Vous avez fait bien d'intervenir, François Dorcival. Est-ce que le gouvernement ne prend pas un risque de décevoir au fond? Écoutez ce qu'en a dit Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, chez nos confrères de BFM TV.
Si c'est pour entendre dire que les Français, une fois de plus, ils trouvent qu'il y a des injustices fiscales, ils trouvent que les salaires sont trop bas, ils trouvent que la 5ème République, elle étouffe une toute vie démocratique.
Il n'y avait pas besoin de faire 4 mois de débat?
Ouais, il n'y avait pas besoin de dépenser 12 millions. Peut-être qu'on pouvait les consacrer ailleurs. Ce qui m'agace, c'est que je veux pas faire pot de fleurs de la communication gouvernementale. Si c'est pour dire, écouter parler, s'auto-féliciter, etc., de ne rien proposer, et puis la semaine prochaine, peut-être que le président de la République va encore s'exprimer pour dire ce qu'il pense, mais pas encore ce qu'il propose. Et puis après, ça va perler. On voit bien qu'ils essaient comme ça de dire, à l'occasion d'une échéance électorale, nous vous avons entendu, sauf que les Français, veulent du concret.
Du concret, François Dorcival, et peut-être tout de suite, non ?
Mais, enfin, tout de suite, on peut attendre 8 jours, puisqu'on attend depuis 3 mois, on peut attendre 8 jours les déclarations du président de la République. Mais effectivement, d'une certaine manière, vous l'avez dit tout à l'heure, Sarah Durieux, le Premier ministre a mis la barre haut aujourd'hui, en parlant de quasiment de Big Bang et de déclarations très très fortes. Alors, il va falloir ensuite les mettre en œuvre. Donc, ce seront des projets de loi présentés devant le Parlement. Or, vous savez très très bien que nous sommes maintenant engagés dans les congés de printemps, dans les ponts, dans la campagne européenne. Enfin, là, c'est quand même, du point de vue législatif, public, opinion publique et politique, un grand, grand désordre.
Céline Braque, rapidement là-dessus, est-ce que c'est un agenda favorable ?
C'est vrai qu'il y a un mélange des sujets et que c'est pas évident.
Il y a un empilement qui arrive.
Maintenant, on voit que les Français font beaucoup de ponts entre le débat national et le débat européen. D'ailleurs, les priorités sont fixées de manière identique. Et je trouve un peu dur quand même, parce que c'est-à-dire que la restitution, elle pouvait pas se faire tellement plus vite que ça, parce qu'à un moment, c'est une énorme matière qu'il a fallu décortiquer et que, voilà, que ça puisse mettre quelques jours à être décortiqué puis à être présenté avant qu'il y ait des présentations qui soient faites. C'est un peu normal. Après, est-ce qu'il y a besoin de répéter quelle est la restitution ? Ça,
la question qu'on se posait à travers ce que venait de dire Jean-François Kélis, c'était, mais est-ce que l'Assemblée et le Sénat avaient besoin de discuter de rien, puisque de toute façon, ils ne peuvent rien faire.
Vous avez raison de nous souligner, François Rosset. Alors, je voudrais qu'on revienne aux attentes des Français. Le moment est venu, Sarah Durieux, de révéler votre top 5, je le dis en français, des pétitions du grand débat national de change.org. Deux mots sur la méthodologie.
Oui, alors on dirait qu'il y a du suspense, mais finalement c'est des attentes qu'on a entendues beaucoup, nous, depuis qu'on a lancé la plateforme en 2012 ici. Donc la méthodologie, il y a 12 millions de personnes qui utilisent la plateforme en France. On leur a envoyé à tous un message en leur proposant de lancer une pétition sur la revendication qu'ils auraient ou la demande qu'ils auraient de mesures prises dans le cadre du grand débat national. Puis ensuite, on a renvoyé toutes les pétitions lancées à tout le monde en leur disant votez pour celles qui vous semblent les plus importantes. Dans le cadre de cet appel à pétition et de cet appel à signature. Il y a donc une centaine de pétitions qui ont été lancées et 5 qui se sont particulièrement démarquées et qu'on présente ce soir.
Alors La première, c'est
la reconnaissance du vote blanc.
Ça arrive en tête chez vous, ça,
le vote blanc. Ça arrive en tête chez nous, oui, avec plus de 300 000 signatures.
Ça ne mange pas de pain, a dit François Dorcival. Bon.
En tout cas, c'est très important a priori pour les Français, donc je pense en effet que ça ne mange pas de pain. Et surtout, ce qui ressort de ça, c'est un lien direct avec la crise démocratique qu'a évoqué Édouard Philippe dans la restitution de ce qui ressortait des contributions.
Deuxième mesure dans le top 5 des pétitions, la fin du glyphosate.
La fin du glyphosate, c'est très important pour les Français. C'est quand on parle d'environnement, quand on parle de changement climatique, c'est toujours un peu un sujet large qui ne les touche pas directement. Là, c'est vraiment quelque chose de très concret. Il y a eu beaucoup de reportages, beaucoup d'informations. Récemment, Monsanto a été condamné sur l'utilisation de ce produit. Donc, c'est important pour les Français que ce produit soit interdit.
Troisième, vous l'avez dénommé pour les bons comptes des élus. En réalité, c'est quoi ? C'est le nombre de parlementaires ?
C'est pour la transparence des dépenses des élus. J'imagine que Monsieur Akili, quand vous faites des dépenses et que vous demandez des remboursements à France Info, vous présentez des reçus pour être remboursé. C'est pas le cas de nos élus aujourd'hui en France. Donc cette pétition demande simplement que les élus présentent des justificatifs pour être remboursés de leurs frais.
Surprenant, en quatrième position, une loi contre l'évasion fiscale. Au fond, ce ne sont pas les baisses d'impôts, là, on est sur autre chose.
On est vraiment sur la solution à la baisse d'impôts. Donc, quand Édouard Philippe dit, voilà, il faut baisser les impôts, donc la solution, c'est de baisser la dépense publique, peut-être c'est juste trouver de l'argent là où il y en a. Et c'est ce que dit cette pétition, l'évasion fiscale. Cette pétition a été lancée par un chercheur spécialisé dans la finance, qui s'appelle Denis Dupré, et qui dit, il y a des solutions toutes simples, c'est lutter contre l'évasion fiscale.
Et le cinquième élément, si je puis dire, c'est le moratoire sur les
Sur les flashballs ou LBD. Voilà, avec tout ce qui s'est passé assez récemment autour des mouvements des Gilets jaunes. C'est un peu celle qui est la plus actuelle, je dirais, au sens actualité du terme. On a eu beaucoup de personnes qui ont signé cette pétition. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été lancée par un neurochirurgien qui lance vraiment l'alarme là-dessus et qui dit qu'il faut un moratoire sur le risque de l'utilisation de ces armes dans le maintien de l'ordre.
Ah, Patrice, moi, qui est un moratoire en contrepartie sur la casse, le saccage, les incendies et le pillage.
Commentaire de François Dorcival. Patrice Moyan, vous avez la difficile tâche de commenter cette, on va dire, cette contre-restitution, si je peux dire, parce qu'elle est finalement, il y a effectivement des thèmes qui sont communs, mais elle est très différente de ce qu'en a dit OpinionWay notamment.
Évidemment, toutes ces thématiques sont intéressantes, mais elles montrent bien en tout cas l'importance d'avoir des élus qui traitent de la complexité des questions. Quand on voit par exemple la fin du glyphosate, mais la fin du glyphosate sans politique agricole, sans réflexion globale sur les pesticides, ça n'a aucun sens, strictement aucun sens. La loi contre l'évasion fiscale, c'est intéressant, mais on voit bien que ces propositions-là, elles viennent plus comme renfort, comme soutien pour effectivement accompagner le débat démocratique, mais qu'elles ne font pas en tout cas un programme.
Oui, Céline Braque, vous êtes surprise également par ce résultat, qui est étonnant, hein, détonnant même, je dirais.
Est-ce que je suis surprise? Oui, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant, enfin, on en discutait toutes les deux juste avant l'émission, c'est que à chaque méthodologie, on obtient des résultats extrêmement différents. Et donc, le grand débat a montré d'ailleurs, c'est pour ça que c'était très compliqué, je trouve, au début, de comprendre les tenants et les aboutissants dans l'après-midi, entre les questions qui sont des questions ouvertes, les questions qui sont les questions fermées, les contributions, etc. On obtient des choses extrêmement différentes, qu'on ne peut pas comparer. Et là, on est dans une démarche de pétition qui est une démarche, on va dire, peut-être que le terme ne vous plaira pas, je ne sais pas, quasi militante. Mmh. Et donc, et finalement, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut qu'à un moment, les élus puissent s'emparer de toutes ces démarches des Français pour pouvoir, derrière, proposer une politique. Et finalement, vous rajoutez quelque chose, un peu de complexité à la complexité, en rapportant des sujets qui, malgré tout, se trouvent, sont des sujets un peu plus précis dans des grandes thématiques
très ciblées,
qui ont bien...
Très ciblées,
mais très, très concrets, dans des thématiques qui ont bien été évoquées par Édouard Philippe.
Allez, nous restons sur cette restitution à 20h20 sur France Info, mais nous marquons une pause avec vous. Le rappel de l'info, Jules de Kiss.
Emmanuel Macron vient de téléphoner au Premier ministre libyen. Il s'inquiète de la situation actuelle dans le pays où les combats font rage. Le militaire qui contrôle tout l'Est veut conquérir Tripoli. Il a des troupes au sol et des avions qui ont mené plusieurs raids. Les vols au-dessus de la capitale libyenne sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le parquet de Paris ouvre deux nouvelles enquêtes préliminaires dans l'affaire Benalla. Elles font suite au signalement du Sénat pour faux témoignages lors des auditions par la commission d'enquête. Elles visent le chargé de mission à l'Elysée, Alexandre Benalla, l'employé de La République En Marche, Vincent Crase, et Patrick Stroda, le directeur du cabinet d'Emmanuel Macron à la présidence. Avant l'annonce de nouvelles mesures par le président de la République, le Premier ministre livre ses conclusions du grand débat national. Et pour Édouard Philippe, il ressort notamment de cette constitution, de cette consultation, une intolérance fiscale des Français. Il promet donc des baisses d'impôts plus rapides. Donald Trump place les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes des États-Unis. C'est le parti au pouvoir à Téhéran que le président américain accuse de financer activement le terrorisme. Réponse du berger à la bergère, l'Iran considère à son tour l'armée américaine comme une force terroriste. Guy Noves estime que son honneur est lavé, il ne fera pas appel de la décision des prud'hommes. Il condamne la Fédération française de rugby à verser 1 million d'euros à l'ancien sélectionneur pour licenciement sans faute grave. Et puis en Ligue 2 de football, un match ce soir, une belle affiche, Châteauroux accueille Lens. Les nordistes 6e doivent s'imposer pour rester proches du podium et garder leur chance d'accession à la Ligue 1 la saison prochaine.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Sarah Durieux, encore un commentaire, si vous le permettez, à votre contribution, si je puis dire, à la restitution, il faut parler comme ça maintenant, du grand débat au grand débat national. Ce que faisait remarquer Céline Braque est que le pouvoir d'achat est absent de ce top 5 des préoccupations des personnes qui ont répondu à votre plateforme, sur votre plateforme.
Je pense que la spécificité d'une pétition, et vous l'avez très bien dit, c'est qu'une pétition, c'est une demande très spécifique à un décideur politique. On n'est pas dans le même format que le grand débat national, qui est l'expression d'un ras-le-bol, qui sont des grandes thématiques sans forcément être très spécifiques. Ici, on a une demande spécifique à un décideur, et c'est pour ça que le pouvoir d'achat, ça s'exprime notamment au travers de la question de l'évasion fiscale.
Oui.
On est trop taxé et donc on demande à ce que ceux qui peuvent plus se permettre de contribuer à l'effort national le fassent.
Oui, ce qui m'a étonné, c'est plutôt que, en fait, c'est pas qu'elle se soit absent sur effectivement un top 5 de pétitions, ça me paraît logique. En revanche, c'est que lors de la restitution d'Édouard Philippe, il a parlé beaucoup de fiscalité et il a lié immédiatement la fiscalité à la dépense publique en disant les Français savent bien aujourd'hui qu'il faut aussi baisser la dépense publique. En vrai, honnêtement, dans les contributions, j'ai pas vu grand-chose qui portait sur la baisse de la dépense publique et spontanément, les Français... dans les sujets, pour baisser très fortement la dépense publique, si vous voulez, il l'a dit et puis immédiatement après, il a dit les Français souhaitent que les services publics soient plus présents, veulent que la santé, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, le système de santé soit plus fort. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui diffère des sondages représentatifs de la population, où on voit qu'il y a des demandes très fortes en matière de pouvoir d'achat qui n'ont pas été exprimées lors de cette restitution.
Alors, dernier mot rapide. Oui, parce que je vous en prie.
Il va y avoir forcément un débat à propos du débat, parce qu'on se rend très très bien compte que les enquêtes, les cahiers de doléances, les réunions sont soit rurales, soit urbaines, selon le canal utilisé, et tout ça ne donne pas l'équilibre d'un échantillon représentatif. Donc effectivement, il est naturel que ceux qui payent pas l'ISF veuillent le rétablir pour les autres, ça c'est classique.
En tout cas, il y a un débat en creux dans débat aussi, un autre, c'est le qui n'est pas dans la restitution, si je puis dire, c'est celui de la retraite à 62 ans.
Par exemple.
Je voudrais vous soumettre ce qu'a déclaré tout à l'heure la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui était l'invité de Jean-Jérôme Bertolus et qui répondait également à une question de Gilles Bornstein dans le 19-20 politique. La question, c'est la question que nous posons tous, c'est est-ce que oui ou non, le 62 ans est un âge qui ne bougera pas de départ à la retraite. Écoutez ce qu'elle a répondu.
Dans le cadre de cette réforme, le mandat qui a été donné à M. Delevoye est inchangé. Il ne s'agit pas de modifier l'âge de départ à la retraite. Les choses sont claires dans le cadre de cette réforme. Par ailleurs, d'autres questions se posent pour financer un certain nombre de nouvelles prestations sociales autour de la dépendance. Et dans ce cadre, compte tenu des nouvelles dépenses qu'on doit faire, évidemment que la question se pose de leur financement. Et là, différentes options sont sur la table, d'allongement de la durée du travail à travers un allongement de la durée de cotisation, mais aussi des mesures sur un jour férié supplémentaire qui serait dédié au financement de la dépendance et du grand âge. Les choses sont aujourd'hui sur la table.
Patrice Moyon, c'est comme Gérald Darmanin hier dans le JDD, c'est-à-dire on ne touche pas aux 62 ans, mais on discute.
C'est oui, mais non, et finalement, on ne touche pas l'âge de la retraite, mais on pourrait y toucher dans un autre cadre que celui de la vie professionnelle.
Donc on y touche ou on n'y touche pas.
En fait, on va y toucher autrement.
Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on le voit bien, nous sommes préparés à ce débat depuis plusieurs jours. C'est-à-dire, et elle répond très très bien, parce qu'on ne peut pas la contester sur ce qu'elle dit. La mission de Levoix, c'est 62 ans.
Mais il y a peut-être
qu'est-ce que vous avez à 62 ans? Est-ce que vous avez tous vos points ou pas tous vos points? Pour avoir tous vos points, il faudra peut-être travailler plus.
C'est ça,
plus longtemps.
Donc on n'y touche pas, mais on y touche.
Plus longtemps, c'est travailler plus dans la semaine ou plus longtemps dans l'avancement de la vie, etc. Ouais.
Sarah Durieux, sur la plateforme chez vous, change.org, les questions de 62 ans de la retraite.
Alors, la question de la CSG, notamment pour les retraités, était un gros sujet, une pétition à plus de 200 000 signatures, d'ailleurs lancée par un retraité qui habitait dans le Loiret. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est des gens qui sont directement concernés par ces réformes qui s'expriment. Et ça reste la question de la retraite. Il y a beaucoup de plus petites pétitions qui sont lancées spontanément sur la plateforme. Ça reste une vraie inquiétude pour une grande majorité de nos membres.
Céline Braque, je rappelle que le Premier ministre est censé être actuellement devant des députés de La République En Marche pour s'expliquer sur cette question des 62 ans, puisque certains marcheurs, plutôt la frange gauche de la REM, est hostile à ce que l'on touche à cette barrière-là. Céline, que dit l'opinion ?
L'opinion est opposée à cela, mais...
mais c'est très bien.
Comme vous dites, c'est quand on regarde les sondages sur le très long terme, on pose la question de est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à retarder votre départ à la retraite. Les gens sont généralement plutôt défavorables et se disent tous l'âge maximum pour moi c'est 60 ans. Ça bouge pas beaucoup. dans l'âge espéré. En revanche, on voit quand même un glissement d'année en année sur l'âge, comment dire, envisagé, enfin l'âge, le pronostic de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent plutôt qu'ils partiront à la retraite. D'ailleurs, je crois que la moyenne est plutôt à 63 ans. Les gens pronostiquent plutôt cela. Donc ça veut dire aussi que les esprits se font à cette idée d'un départ plus tardif.
Voilà. Bon, merci à vous. On a tout compris sur cette restitution. Il faut attendre la semaine prochaine. Donc voilà, c'est ça. C'est un peu la conclusion. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie des informés de France Info pour une page consacrée aux élections européennes. À tout de suite.
Je m'appelle Alban Dogliani. Je recrute avec LinkedIn Jobs. J'étais à la recherche d'un commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. Il a un grand sens du service client et des relations humaines.
LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com/publier et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com/publier.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Demain matin, à part de belles éclaircies de la région PACA à la Franche-Comté en passant par le massif alpin, le ciel sera souvent nuageux dans les autres régions avec de faibles pluies près des frontières du Nord. L'après-midi, vous retrouverez un temps maussade près des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes. Prévoyez un régime d'averses orageuses des Landes au Languedoc-Roussillon et jusque vers la basse vallée du Rhône, mais aussi du massif central en remontant vers la Normandie et de l'Île-de-France au Jura en passant par la Bourgogne. Attention, sous les orages, les cumuls de pluie seront parfois importants. Seules les régions allant de la Bretagne à la Gironde, en passant par la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime, apprécieront un temps doux et plutôt bien ensoleillé. Côté température, les minimales seront comprises entre 2 et 10 degrés, les maximales afficheront 13 à 19 degrés. Comptez 13 à Abbeville, 15 à Brest, 16 à Nantes et Nancy. Prévoyez 17 dans la capitale comme à Dijon, Lyon et Toulouse, 18 à Bordeaux et Marseille et 19 degrés à Perpignan.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et 20h30 sur France Info, toute l'info. Bonsoir à vous, Julien Longlet.
Bonsoir Jean-François. Le parquet de Paris ouvre deux enquêtes préliminaires, dont l'une pour faux témoignage dans l'affaire Benalla. C'est la conséquence du signalement à la justice. C'était à la fin du mois dernier par le Sénat de suspicion de faux témoignage durant les auditions de la mission d'information. C'était devant les sénateurs. Plusieurs acteurs clés du dossier risquent donc d'être entendus, mais cette fois par la police judiciaire. Stéphane Père.
Devant le Sénat, ils ont prêté serment, mais à plusieurs reprises, des doutes ont surgi sur la sincérité de leurs déclarations. Le premier, Alexandre Benalla, a-t-il menti sous serment sur la nature des fonctions qui lui ont été confiées, sur son rôle exact dans le dispositif de sécurité du chef de l'État, sur la possession et la restitution de ses passeports diplomatiques et de service qui lui ont permis de voyager après avoir quitté l'Élysée. Alexandre Benalla et son acolyte Vincent Crase ont-ils tous deux ouvertement menti aux sénateurs en niant leur connaissance et leur participation active à un contrat de sécurité privée avec l'oligarque russe Iskander Makhmoudov? Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, a-t-il omis des détails clés, voire menti au moment de décrire le périmètre réel des missions confiées à Alexandre Benalla? C'est désormais la BRDP, l'une des brigades spécialisées de la police judiciaire parisienne, qui va entendre ces trois hommes et vérifier s'ils ont ou non franchi la ligne du faux témoignage. Bien que le Sénat ne le préconisait pas, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le général Lionel Lavergne, le chef du groupe de sécurité de la présidence de la République, pourront eux aussi être entendus par les policiers. Le faux témoignage est passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Les précisions de Stéphane Père. A noter que le parquet a également ouvert une enquête préliminaire à l'encontre d'Alexandre Benalla pour ne pas avoir déclaré ses déclarations de patrimoine et ses déclarations d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La synthèse de 3 mois de grands débats, c'était aujourd'hui au Grand Palais à Paris. Pas de grandes annonces. Le Premier ministre a toutefois promis plus de réformes et moins d'impôts. Le Président de la République doit faire quelques annonces, mais dans les jours qui viennent. Le début de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi de taxation des géants mondiaux du numérique, les GAFA. Le débat doit se poursuivre jusqu'à mercredi. 150 amendements ont été déposés. Guy Noves ne fera pas appel. L'ancien sélectionneur du 15 de France vient de toucher 1 million d'euros d'indemnité devant les prud'hommes de Toulouse dans le litige l'opposant à la Fédération française de rugby. Il en demandait 3, 2 millions. La fédération, elle, se laisse le temps de la réflexion pour faire appel ou non de cette décision. À 2 mois du mondial féminin, l'équipe de France de football joue un match amical contre le Danemark à Strasbourg ce soir. C'est le dernier test pour les Bleus avant la liste des 23 joueuses sélectionnées pour ce mondial qui aura lieu en France. La liste que doit dévoiler Corinne Diacre d'ici 1 mois. Et puis de la Ligue 2 ce soir avec le dernier match de la 31e journée entre Châteauroux et Lens. C'est à partir de 20h45. Tout de suite sur France Info, la deuxième partie des informés, Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info consacrée aux élections européennes avec nos invités Céline Brac, cofondatrice et directrice générale d'Odoxa Sondage, avec Sarah Durieux, la directrice de Change.org France, François Dorcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles, avec Patrice Moyon, chroniqueur économique et social et éditorialiste à Ouest France, et nous avons été rejoints par Isabelle Jégouzeau. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes chef de la représentation en France de la Commission européenne et ravi d'accueillir également Paolo Levi. Bonsoir à vous. Bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste correspondant de l'agence de presse italienne ANSA, mais également de la Stampa. Voilà, nous sommes donc ensemble pour une demi-heure pour parler d'Europe en marge du grand débat national. Évidemment, se profilent les élections européennes. Nous sommes à 7 semaines du scrutin. Ça se rapproche ce lundi 8 avril pour sa 4e journée spéciale. Je signale que Radio France renforce son dispositif digital avec la création d'un mot dièse hashtag Votre Europe. Un simple clic et vous accédez à tous les programmes qui traitent des élections européennes pour mieux les comprendre. Isabelle Jégouzeau, je me tourne vers vous. Vous dirigez donc cette représentation en France de la Commission et vous venez de lancer un nouveau site internet assez étonnant baptisé Les décodeurs de l'Europe. L'objectif, c'est tordre le cou à certaines idées reçues.
Oui, c'est de contribuer à l'information. Les Français sont parmi les Européens, sont même les Européens qui se considèrent les moins bien informés sur l'Europe. C'est 71% des Français qui disent qu'ils n'en savent pas assez. Donc nous, on a voulu contribuer, répondre à un certain nombre d'idées reçues qui circulent. Schengen favorise la circulation des criminels, l'Europe coûte trop cher.
Alors j'ai noté, et avec l'euro, tout a augmenté sauf mon pouvoir d'achat.
Voilà.
François Dorcival, je ne sais pas si on n'est peut-être pas loin de la vérité. Non.
Alors, sur des éléments ça, comme ça...
L'euro
bon, c'est une plaisanterie. Pour poursuivre, Isabelle Jégouzeau, vous pensez que vous allez convaincre les eurosceptiques avec ça?
En fait, nous, notre travail, c'est de mettre des éléments objectifs dans le débat. Ouais. Parce que le débat européen est très souvent fantasmatique. Et on l'a vu d'ailleurs dans le débat la semaine dernière, des choses qui partent un peu dans tous les sens. Notre travail, c'est d'informer, enfin de donner des éléments objectif sur, bon, par exemple, l'Europe, ça coûte combien? Alors,
C'est un peu l'Europe pour les nuls, hein. Enfin, vous.
Oui,
c'est. À partir des idées reçues. Voilà. Ce sont les idées reçues.
Voilà. On part des idées que monsieur, enfin, moi, dans un taxi, vous entendez telle ou telle chose, l'Europe. Typiquement, l'Europe, ça coûte beaucoup trop cher. Bon. Ben, l'Europe, ça coûte 100 euros par Français et par an. Ouais. Alors, on peut dire c'est trop, on peut dire c'est pas assez, mais
ça c'est réel. Voilà.
Mais ça c'est réel, c'est fait sur la base des chiffres que l'on a récupérés. Donc ouais. Et à partir de là, le débat doit se nourrir, mais il doit avoir lieu sur des réalités, pas sur des fantasmes. Mais c'est pour ça qu'on a fait ce site.
Ouais.
Et en plus, on a essayé de pas être trop ennuyeux parce que l'Europe a la réputation d'être épouvantablement ennuyeuse. Donc on a essayé de jouer
avec
un peu d'humour et
alors,
parce que c'est quand même un beau projet et il faut cesser d'être considéré comme des casse-pieds.
Alors, il y a un sujet bien réel qui est tout sauf casse-pieds, c'est le Brexit. Theresa May demande à l'Union européenne, vous le savez, un nouveau report au 30 juin. Ce nouveau délai est-il souhaitable? Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, l'invité de France Info ce matin, pense qu'il n'y aura pas de sortie sans délai.
je crois et j'espère qu'il n'y aura pas de sortie désordonnée pour deux raisons. La première, c'est parce que je pense qu'un no deal est vraiment la plus mauvaise des solutions, et pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne. La deuxième, c'est parce que ça n'est souhaité ni du côté européen ni du côté britannique. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'il y a un processus politique qui continue, il est possible qu'il y ait une extension. Il faudra toutefois que Mme May la justifie par un projet, par une démarche, par un menu d'options, au moins, sinon par un accord.
Paolo Levi, est-ce qu'en Italie, le Brexit vous intéresse là-bas ?
Énormément. Je pense que dans tout pays européen, c'est un débat qui nous laisse bouche bée d'un côté et de l'autre qu'on suit avec grand intérêt, même si parfois il est très très difficile de le comprendre. Après, avec pour la petite histoire, une petite pique de satisfaction, c'est-à-dire que très très longtemps, on a dit que l'Italie était un pays un peu sentimental, très loin de la rationalité, etc. Où pour passer d'un point à un point B, la ligne la plus rapide était l'arabesque. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pire que nous, quoi. Parce que ces Anglais que pendant des années, on a pris, en tout cas en Italie, comme un exemple d'efficacité, etc., aujourd'hui se révèlent vraiment plus irrationnels que les Italiens.
Ah, François Garcival. C'est là où je suis en désaccord. Ils ne sont pas si irrationnels que ça. Ils ont dit non à tout. C'est vrai? Sauf à la confiance à Theresa May, qu'ils n'ont pas renversée, sauf au fait d'avoir un nouvel accord de sortie de l'Union européenne. Et donc, s'ils ont dit non à tout, c'est parce que les Européens, en particulier M. Moscovici, qui change complètement d'attitude aujourd'hui, désormais, comme Michel Barnier, ont voulu, d'une certaine façon, les punir parce qu'ils voulaient sortir.
Ah non, ça, on peut pas dire ça.
Et ça, cette histoire-là, elle se traduit aujourd'hui non général des Anglais qui obtiennent en définitive ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire renégocier.
En aucun cas, il ne s'agit d'une punition. Les Anglais sont... C'est les Anglais d'abord qui ont décidé de sortir. Et du côté européen, on le regrette, mais on en a pris acte. Après, les Anglais ont donné toute une série de lignes rouges. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas être dans l'union douanière, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus être dans le marché unique. Et donc, nous, à partir de cela, on a juste dit, bon, vous ne voulez plus être dans l'union douanière, vous voulez plus être dans le marché unique, ce qui veut dire que nous, il va falloir qu'on remette un certain nombre de contrôles. Et finalement, on se rend compte que dans ce débat, lorsque le débat du Brexit a eu lieu, à aucun moment, personne n'a parlé de l'Irlande. Et qu'est-ce qui a coincé ? C'est l'Irlande. Parce que, évidemment... Le débat du Brexit a eu lieu sur de fausses bases, et c'est aussi parce qu'on avait un petit peu ça en tête qu'on a fait les décodeurs de l'Europe. Il a eu lieu sur de fausses bases, et quand on est rentré dans la réalité des choses, on s'est trouvé confronté notamment à cette question de l'Irlande, qui est extrêmement difficile et extrêmement douloureuse, parce que on a réussi à faire la paix, et l'Europe n'y a pas été pour rien, d'ailleurs, si on a réussi à avoir la paix en Irlande.
Juste une question, attendez, Céline Brac, Sarah Durieux, Patrice Moyon, rassurez-vous, vous allez avoir la parole dans un instant. Juste une question rapide, Isabelle Giguzo. Est-ce à dire, s'il y a un nouveau délai au 30 juin, pardonnez-moi cette question un peu décodeur, si je puis dire, est-ce que la Grande-Bretagne va de nouveau participer au scrutin du 26 mai ?
Ah bah oui.
Alors, si le 22 mai, la Grande-Bretagne est encore dans l'Union européenne, et ça, il appartiendra au Conseil européen de décider dans deux jours, là je ne sais pas ce qu'ils décideront, et avec quoi Madame May va arriver à ce Conseil européen, donc soit on est dans un cas d'un no deal, et là on s'y est préparé, on a fait ce qu'il fallait, ou on repousse les choses, et ça il appartiendra au Royaume-Uni et au Conseil européen de décider. Mais si au-delà du 22 mai, le Royaume-Uni est toujours là, il faut effectivement faire des élections.
Allez, on va en discuter. 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Le parquet de Paris ouvre ce soir deux nouvelles enquêtes préliminaires dans l'affaire Benalla. Une pour des soupçons de faux témoignages devant la commission d'enquête du Sénat. Elle vise le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Patrick Strada, Vincent Crase et Alexandre Benalla. Ce dernier est aussi visé par une deuxième enquête. Il n'aurait pas rempli comme il le faut une déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce n'était pas le grand débat, mais le grand débit de banalité. Le député La France Insoumise Alexis Corbière, pas convaincu du tout par ce que conclut le gouvernement de la consultation Le Premier ministre évoque une intolérance fiscale des Français. Il retient aussi leur désir de proximité avec les services publics, une démocratie plus directe et un besoin de réponse à l'urgence climatique. Le couple de militants anti-viande qui s'en était pris à des boucheries, à des poissonneries et à des restaurants dans le Nord est condamné à de la prison ferme. Décision du tribunal correctionnel de Lille, des peines de quelques mois qui seront donc aménageables. Le pouvoir arrête 2500 manifestants au Soudan, des contestataires du président Omar el-Béchir. Cela fait maintenant trois jours qu'ils manifestent. La mort de l'un d'entre eux a relancé le mouvement de protestation en cours depuis décembre. Il est parti de la hausse du prix du pain sur décision du gouvernement. C'est le dernier match de l'équipe de France féminine de football avant la liste des 23 pour le Mondial cet été. France-Danemark en amical à Strasbourg ce soir. Les Bleus sur une bonne lancée dans leur préparation. Elles ont battu le Japon 3-1 la semaine dernière.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors Céline Braque, des Britanniques qui voteraient avant de s'en aller, c'est une bonne publicité pour l'Europe.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que ce Brexit finalement finit par faire une sorte de promotion pour l'Europe au sein de la France. C'est-à-dire que, faut pas s'y tromper, les Français ne considèrent pas que c'est une bonne nouvelle, hein, le Brexit. Ils considèrent, 6 Français sur 10 considèrent que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe, que c'est une mauvaise nouvelle pour la France. Mais ils sont encore plus nombreux à considérer que c'est une mauvaise nouvelle pour les Britanniques eux-mêmes. Et par ailleurs, ils considèrent de plus en plus aujourd'hui, ils sont les trois quarts à dire que aujourd'hui, ça ne donnera plus du tout envie à d'autres pays européens de tenter l'aventure. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça donne une envie d'Europe aux Français, mais en revanche, ça rend des solutions de Frexit aujourd'hui aux yeux de la quasi-totalité des Français. Parfaitement absurde.
Patrice Moyon, ils ne sont même pas dans la zone euro. Ils ne sont même pas dans la zone euro. Donc pour eux, c'était assez plus facile en théorie par rapport à un pays comme la France ou l'Italie de sortir.
Patrice Moyon, il serait temps que ça cesse rapidement, de même d'un point de vue économique.
D'abord, pour les Anglais aujourd'hui, il n'y a pas de vent favorable parce qu'il n'y a pas de cap. Les Anglais ne savent pas aujourd'hui où ils vont. Et deuxième élément, quand on regarde un peu sur les 100 dernières années, en fait, il n'y a pas une séparation aussi importante avec autant d'intégration économique. On n'en a pas vu depuis la désintégration de l'Empire austro-hongrois ou depuis la disparition de l'URSS. Et ça, je pense que les Anglais ne l'avaient pas mesuré.
Oui,
ils n'avaient pas mesuré ce tel niveau d'intégration et ce que ça impliquait.
Alors, autre sujet qui pose problème, qui fait polémique, c'est la déclaration de Monsieur Christophe Castaner. C'était vendredi en conférence de presse finale des ministres de l'Intérieur du G7 à Paris sur la complicité supposée entre certaines ONG et les passeurs en Méditerranée. Je propose de la réentendre de façon ramassée, évidemment, avec une réaction, celle de Benoît Hamon, qui est tête de liste aux Européennes de Génération, assez en colère. C'était sur Public Sénat ce matin.
On a observé que certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables, souvent au péril de leur vie. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs.
Associer des gens qui sauvent des vies en Méditerranée à des complices des passeurs, en clair, les ONG, c'est pareil que les mafias, mais c'est honteux. Moi, j'ai un désaccord, mais total, philosophique, politique, intellectuel, avec ce monsieur de la place Beauvau qui déshonore la République quand il s'attaque aux ONG.
Sarah Durieux, sur la déclaration de Christophe Castaner, que diriez-vous ?
Alors c'est une réaction qui a fait réagir, on le voit, Benoît Hamon, mais aussi Génération Identitaire qui a décidé de donner une carte de membre d'honneur à Christophe Castaner pour cette déclaration. Et à côté de ça, ce que je retiens de cette déclaration, c'est dans des conditions effroyables. Aujourd'hui, ces ONG, elles opèrent dans les conditions parce qu'elles ont peu de moyens pour aider ces gens qui de toute façon vont prendre la mer, donc il faut les aider quand ils sont déjà en mer et les sauver. Et à côté de ça, il y a une coupe des soutiens aux ONG qui est massive, et un autre chiffre qui est sorti aujourd'hui, puisque France Générosité a sorti son baromètre annuel sur la générosité des Français. Et c'est 150 millions d'euros en moins qui ont été donnés aux ONG cette année, notamment parce qu'il y a eu la réforme de l'ISF qui a fait que les personnes avec plus de moyens donnent moins aux ONG. Donc on peut donner peut-être une autre carte à Monsieur Castaner et au gouvernement, c'est la carte du soutien aux ONG et à la donation en France qui est pas géniale.
Paolo Lévy, l'Italie en première ligne avec l'arrivée des migrants en Europe. Que diriez-vous de cette déclaration du ministre français vous-même?
Écoutez, j'étais juste en face de Monsieur Castaner quand qu'il a fait cette déclaration. Et je peux vous dire que juste derrière, il y avait Monsieur Salvini qui s'est fondu dans un sourire. Je l'ai jamais vu si content parce que il a vu, disons, le représentant éminent, son homologue français qui en quelque sorte adoptait complètement sa ligne et ce qu'il disait depuis des mois. La justice italienne n'a jamais confirmé les preuves de cette collusion présumée entre les ONG et les passeurs. Donc, effectivement, cette déclaration de Castaner a été un peu téméraire, à mon sens. Une chose est sûre, la France n'a jamais soutenu les ONG, c'est-à-dire que l'Aquarius, il a été contraint d'aller en Espagne et certainement pas en Corse, alors que les 1000 marins sont beaucoup de là où il était à la Corse était beaucoup plus inférieur que par rapport à Barcelone. Donc voilà, c'est la fin de l'hypocrisie française quelque part.
Ah, Isabelle Jégouzeau, il va falloir peut-être apurer ce sujet une bonne fois pour toutes.
Alors sur le travail des ONG, je crois qu'il y a, les ONG ont fait du travail en Méditerranée et je crois qu'il faut en donner acte. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il y a eu des opérations de l'Union européenne en mer qui ont quand même sauvé 730 000 personnes. Et donc c'est tout à fait considérable. Il y a eu en particulier l'opération Sophia au large des côtes libyennes qui ont récupéré 730 000 migrants et arrêté également un certain nombre de passeurs. Donc, cette situation en Méditerranée a été absolument tragique. On a aujourd'hui, heureusement, très fortement fait baisser les arrivées, en particulier en Méditerranée centrale, où elles ont beaucoup, beaucoup baissé. On a de nouveau, par contre, des arrivées importantes en Espagne, mais dans des nombres qui sont quand même très, très inférieurs. L'année dernière, on a eu 150 000 arrivées, c'est beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2015, en 2016. Et donc, l'Europe a quand même repris très largement le contrôle de sa frontière au cours des dernières années, et aussi parce qu'on a beaucoup travaillé, entre autres, sur les moyens de l'agence Frontex pour renforcer cette présence aux frontières.
En tous les cas, cette déclaration de Christophe Castaner aura occupé une partie du week-end. Je voudrais vous demander votre avis également à tous sur le projet de loi visant les GAFA qui est soumis depuis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une taxe à la française qui vise les grands groupes américains essentiellement et qui s'inspire d'un projet européen qui n'a pas abouti. Le mois dernier, Patrice Moyon, en raison des réticences de 4 pays membres, Irlande, Suède, Danemark et Finlande, est-ce qu'il faut y voir là peut-être un petit échec de l'Europe ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un projet aussi avec l'OCDE, mais évidemment, c'est long. Alors oui,
Bruno Le Maire a dit que ça pourrait servir de levier en attendant que l'OCDE se décide.
La France donne le ton. Elle espère qu'elle sera suivie. En tout cas, c'est un sujet dont l'Europe doit s'emparer parce que c'est aussi un enjeu de souveraineté numérique, et il faut que l'Europe puisse s'imposer face effectivement aux GAFA.
Aux États-Unis, parce que Washington a fait même une déclaration jugeant cette taxe discriminatoire à l'égard des entreprises américaines. Je vais vous solliciter tous sur cette question dans un instant, mais nous marquons une ultime pause à 20h50 sur France Info avec le rappel de l'info. Jules Dequisse.
Le Royaume-Uni fixe au 23 mai la date des élections européennes sur son sol, mais il espère ne pas avoir à les organiser. La première ministre Theresa May veut avoir quitté l'Union avant cette date. Elle doit d'abord trouver un compromis avec son opposition sur l'accord de sortie négocié avec Bruxelles. Deux enquêtes préliminaires ouvertes aujourd'hui dans l'affaire Benalla. Elles visent des soupçons de faux témoignages devant la commission d'enquête du Sénat. Les juges s'intéressent à Alexandre Benalla, chargé de mission à l'Élysée, à son ami Vincent Crase, employé de La République En Marche, et à Patrick Strauda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à la présidence. Pas de modification de l'âge légal de départ à la retraite. Il va rester à 62 ans, assure ce soir sur France Info la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui affirme que d'autres questions se posent dans le cadre de la réforme, notamment le financement de la dépendance des personnes âgées. 50 000 euros d'amende pour une usine du groupe Lactalis en Isère. La fromagerie L'Étoile du Vercors rejetait dans la rivière ses eaux usées sans les traiter. Une amende trop faible d'après les associations de défense de l'environnement. Elles estiment que la peine incite les industriels à être sanctionnés en justice plutôt que d'agir dans les règles. Et puis cela vous donnera peut-être envie de regarder le prochain Eurovision. Madonna va s'y produire. Annonce du producteur du concours musical qui va se dérouler en Israël à Tel Aviv le 18 mai prochain.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Isabelle. Isabelle Jégouzeau, non pas sur Madonna qui se produira à l'Eurovision, mais sur cette loi GAFA franco-française. Franchement, la règle de l'unanimité en matière fiscale, est-ce qu'elle est vraiment aujourd'hui viable pour l'Europe?
Non, effectivement. La preuve de cette affaire de GAFA, c'est que l'unanimité est bloquante. Et d'ailleurs, la Commission, au mois de janvier dernier, a proposé d'avancer et de quitter cette unanimité pour aller vers un système de majorité qualifiée. Alors, ça prendra du temps, mais le sujet est sur la table. Cela dit, sur les GAFA, on ne peut pas non plus dire qu'on n'a rien fait. Puisque même si sur la fiscalité on n'a pas avancé, d'abord les projets européens ont fait un peu bouger du côté de l'OCDE et donc ça c'est déjà une chose. Et puis on a quand même fait des vrais progrès pour essayer d'encadrer les GAFA au niveau européen. Je peux vous donner quelques exemples. Le RGPD par exemple, le règlement sur la protection des données, qui a quand même remis un petit peu d'ordre dans la protection des données pour les citoyens. Et c'est pas ça débouche réellement. On a eu récemment une amende de la CNIL de 50 millions contre Google.
Mais on peut mieux faire. Voilà.
Oui, on peut mieux faire. On a aussi fait beaucoup de choses en matière de concurrence. Madame Vestager a été extrêmement active pour faire en sorte que, d'une part, les GAFA puissent payer des impôts, c'est l'affaire Apple, et puis qu'ils n'abusent pas de leur position dominante pour empêcher les autres d'accéder au marché.
Allez,
donc, on régule quand même, et on ne peut réguler qu'au niveau européen. Je crois que c'est important. On avance pas assez vite sur la taxation, mais on avance et il n'y a que l'Europe qui peut faire des choses sur des sujets comme ça.
Alors, il nous reste peu de temps. Un front nationaliste est-il en train de se constituer sous nos yeux un mois et demi du scrutin, on va dire ça comme ça. La Ligue italienne de Matteo Salvini et trois autres partis européens ont annoncé aujourd'hui à Milan leur volonté d'unir leurs forces au Parlement européen à l'issue des élections. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration de Monsieur Salvini.
Aujourd'hui, pour de nombreux citoyens, de nombreux peuples, l'Union européenne représente un cauchemar et non pas un rêve. Nous travaillons pour se recentrer sur le travail, la famille, la sécurité, la protection de l'environnement, le futur des jeunes. Nous le faisons avec des mouvements politiques alternatifs, différents de ceux qui ont gouverné l'Europe jusqu'alors.
François Dorcival, est-ce que ces mouvements alternatifs peuvent demain, au sortir du scrutin, créer, fabriquer sous nos yeux un autre Parlement, une autre Europe ?
Écoutez, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est le résultat des élections européennes du 26 mai. Tout ce que l'on voit pour le moment à travers les enquêtes par sondage, c'est que non, il n'y aura pas ce type de majorité. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est assez étonnant, justement, c'est que même ces groupes-là ne parviennent pas à constituer l'unité entre eux. Ils n'y parviennent pas, ils sont éclatés entre plusieurs formations, ce qui prouve bien que les questions de personnes, mais aussi de pays, jouent avant l'unité, si je puis dire, sur le plan idéologique.
Paolo Levi, vous confirmez ce que dit François Dorcival? Apparemment, ça ne va pas se produire.
C'est très très improbable que cette alliance puisse se produire, même parce que à l'heure actuelle, le seul mot d'ordre qui fédère tous ces mouvements, c'est ce sentiment anti-Bruxelles, anti-Union européenne, etc. Pour le reste, on a l'impression qu'ils sont divisés sur tout, à commencer par la question des migrants. Moi, je rêve un jour de pouvoir croiser Marine Le Pen pour lui demander, écoutez, mais votre allié de fer, Matteo Salvini, il prône exactement l'inverse de ce que vous prenez vous. C'est-à-dire qu'un, il veut que la France arrête de repousser les migrants à la frontière franco-italienne, et l'autre, en revanche, il demande exactement l'inverse. Mais disons, le thème des migrations est peut-être le plus clair et net, mais il y en a plein d'autres. La famille, par exemple, Marine Le Pen a une vision assez progressiste sur tous les thèmes de la famille. Elle en parle quasiment plus. Et l'économie, le Rassemblement national et notamment Marine Le Pen est plutôt étatiste, alors que Salvini est ultralibéral. D'ailleurs, on le voit sur la position sur la Lyon-Turin, où la position de Matteo Salvini est exactement la même qu'Emmanuel Macron. Donc, sur le budget, il y a plein de choses, y compris avec les pays de l'Est de l'Europe et les mouvements populistes dans l'Est de l'Europe qui divisent, disons, ces différentes âmes. Et donc, voilà, cette alliance, elle est improbable et sinon impossible.
Isabelle Jégouzeau, vous voyez, c'est passionnant l'Europe. Vous allez arriver à nous vendre finalement le scrutin du 26 mai ou pas?
Oui, enfin, c'est passionnant, pas... ouais. Surtout parce que c'est un beau projet.
Parce que ça raconte des peuples.
Parce que ça raconte une histoire, ça raconte des valeurs, et que je crois que c'est surtout ça l'Europe. On ne dit pas assez que si aujourd'hui nous ne sommes pas unis au niveau européen, nous disparaîtrons de l'histoire, tout simplement, parce que face à des peuples, enfin des grandes puissances, si nous voulons faire prévaloir nos valeurs, et elles sont réelles, l'égalité homme-femme, c'est pas quelque chose qui existe partout dans le monde, et c'est une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Il faut la protéger. La démocratie, l'état de droit, tout ça, ça n'existe pas partout dans le monde et ça fait partie des valeurs fondatrices de l'Union européenne. Donc voilà, c'est un projet qu'il faut protéger, qu'il faut défendre parce que derrière, il y a nos valeurs.
Et nous rappelons donc le site que vous avez mis en place, lancé début avril, là, c'est
alors,
tout neuf.
Ça existe déjà depuis 2 ans. Oui, hein, on a lancé ça en 2016, on vient de faire un site, on l'a un peu relooké.
Voilà. Décodeur de l'Europe. Avec vous, François Dorcival, qu'y a-t-il à la une de Valeurs Actuelles?
Eh bien, on a demandé à Marion Maréchal ce qu'elle pensait de tout ça.
Ah, c'est une exclusivité, donc. Ouais. Avec vous, Patrice Moyon, Ouest France, demain.
Le grand débat. Ah, le grand débat, les élections en Israël.
Allez, avec vous également, Sarah Durieux, je rappelle change.org, on peut aller consulter.
Puis on peut aller lancer des pétitions si on estime qu'Edouard Philippe n'était pas à la hauteur des attentes.
Et le top 5 donc, que vous nous avez livré en exclusivité ce soir, je vous dis merci à tous. Merci Céline Braque, Sarah Durieux, François Dorcival, Patrice Moyon, Isabelle Jégouzeau et Paolo Lévy d'avoir participé à ces informés un peu spéciaux ce soir. Je vous donne pour ma part rendez-vous à demain. Merci.